Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr et à mes côtés son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Marc.
Également sur le plateau, Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonjour, bonjour Catherine. Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Bonjour.
Bonjour.
Et Bruno Jeudy, directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour, bonjour Bruno. Marc. Alors Donald Trump est de retour et il est clairement de retour. Il n'a pas tardé à expliquer d'ailleurs à ses immigrés, à ses voisins, à ses ennemis, mais aussi à ses alliés que America First n'est pas un simple slogan de campagne, mais une nouvelle et dure réalité à laquelle il ferait mieux de s'adapter, vite fait, bien fait. On écoute le président américain expliquer qu'il n'aura aucun scrupule à déclencher une guerre commerciale avec la méchante Europe.
L'Union européenne est très très mauvaise envers nous. Ils nous traitent très très mal. Ils ne prennent pas nos voitures du tout. Ils ne prennent pas nos produits agricoles. En gros, ils ne prennent pas grand-chose. Nous avons un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne. Ils nous traitent très très mal, donc ils sont bons pour des droits de douane.
Jean-Marie Colombani, c'est dit sans détour.
Oui, oui, absolument. On peut pas en plus prendre ça à la légère parce que c'est vraiment très sérieux.
On ne peut plus, en tout cas.
On ne peut plus, en tout cas. Mais c'est un président curieux quand même. Il faut bien avoir la mesure de ce qu'il fait ou de ce qu'il promet parce qu'il aime bien Kim Jong-un. Il s'entend très bien avec Poutine. On va s'en apercevoir un peu plus tard. Et il a des relations assez cordiales finalement avec Xi Jinping. Mais il piétine ses alliés. Il les insulte, il insulte l'Europe, il insulte ses alliés. Et donc, je pense qu'au-delà de ça, il y a quand même une remise en cause radicale de la notion même d'alliance. Parce que pour lui, il n'y a plus d'alliés. Il y a des ennemis au gré des deals qu'il veut souscrire ou non, etc. Et donc ça, c'est à mon avis, l'élément le plus important dans ce qui est en train de se passer, c'est ça. C'est la remise en cause des alliances traditionnelles des États-Unis et avec un comportement qui est ouvertement agressif vis-à-vis de ce qui devrait être la communauté, entre guillemets, euro-atlantique. Mais ce concept-là a totalement disparu. Et donc il va inaugurer une période où les rapports de force sont comptent seulement et il met évidemment l'Europe au pied du mur, parce que si l'Europe ne réagit pas, elle cessera d'exister.
Mais Catherine, le spectre d'une guerre commerciale est réellement là. C'est-à-dire que là, avec des tarifs douaniers qui pourraient remonter, Trump a dit peut-être dès le 1er février avec certains de ses voisins, mais avec l'Europe, la menace est explicite.
La menace est explicite, la réaction n'est pas très vive. Parce que quand même, pour l'instant, ce qu'on entend du côté de la Commission européenne ou de Mme Lagarde, la Banque centrale, c'est plutôt d'essayer de négocier comment on va s'en sortir, quoi. Comment on va essayer de jouer avec l'affaire. Et puis d'ailleurs, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent qui nous menace, ou qui menace nos amis européens, par exemple, concernant le Groenland, les dirigeants danois n'ont pas beaucoup réagi, et les dirigeants européens non plus. Concernant son exigence que tout le monde achète, passe à 5% de budget, sans quoi il cessera de participer à la
défense.
De budget de défense, sans quoi il cessera de participer à la défense de ses alliés, ça passe sans beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que, moi j'ai l'impression que là, on pense qu'on va pouvoir encore jouer. Qu'on va dealer avec lui, qu'on va y arriver, qu'on va négocier, alors que, à mon sens, ce qu'est en train de faire Trump, moi je rejoins ce que dit Jean-Marie à l'instant, c'est-à-dire que je crois que la remise en cause, elle est radicale et profonde, et qu'en fait, ce qu'il est en train de casser, c'est les équilibres qui ont été construits en 1945 à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien au plan international, multilatéral, ONU, principes politiques et alliances. Construite. Et donc, vraiment, c'est ça qu'il est en train de détruire dans tous les aspects de sa politique.
Alors, juste avant de vous faire réagir, Henri et Bruno, on va écouter quand même quelques réactions européennes. Hein. Les Européens semblent dire c'est le moment ou jamais de se mettre en ordre de bataille. On va écouter le président français Emmanuel Macron. C'était lors de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Paris. Et on va aussi écouter le premier ministre polonais Donald Tusk, dont le pays assume la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne ce semestre.
Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens, et donc à nos deux pays, de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte et souveraine. Une Europe attachée aux liens transatlantiques, qui sache affirmer aussi ses intérêts propres et les défendre avec ses valeurs et ses instruments européens.
Si l'Europe veut survivre, elle doit s'armer. Ce n'est pas notre choix. Je ne suis pas un militariste. La Pologne est l'endroit sur Terre où personne ne veut qu'une guerre se répète. C'est en Europe que nous avons le plus souffert pendant cette terrible guerre. C'est peut-être pour cela que nous comprenons si bien que pour éviter cette répétition tragique de l'histoire, nous devons tous être forts, armés, déterminés, forts d'esprit, mais aussi forts dans nos capacités de défense.
Henri.
En fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Alors, c'est vrai, moi, je rejoins totalement mes confrères quand il s'agit de, des alliances qui sont en tout cas extrêmement mouvantes, qui ne sont plus les mêmes et qui sont souvent piétinées avec un Trump qui, c'est vrai, veut traiter direct avec un deal en position de force. Ce qui est intéressant dans cette déclaration que vous avez passée tout à l'heure, c'est aussi ce qu'il dit, allez, en avant pour les barrières douanières. Ça veut dire qu'en effet, les règles de 45, l'ONU, Bretton Woods, FMI, etc., tout ça n'existe plus parce que normalement, quand vous voulez remettre en cause des accords commerciaux, des grands traités, il y a quand même des règles, il y a une organisation qui s'appelle l'OMC, etc., l'Organisation mondiale du commerce. Mais c'est vrai que tout ça, aujourd'hui, est balayé. Pas que par Trump, il est balayé par toutes les puissances émergentes. Hein. Ça, en gros, il n'y a plus que les Européens. Vous savez, quand Macron, il y a quelque temps, a dit qu'on est un peu les derniers herbivores dans un monde de carnivores, il faut bien constater que c'est assez vrai. Il n'y a que les Européens qui s'accrochent, vaille que vaille, aux règles internationales, à l'héritage de 45. Mais il se trouve qu'entre 45 et 2024, il y a un monde qui a totalement bouleversé, où les acteurs dominants ne sont plus les mêmes. Donc ça, bon, et Trump s'adapte complètement et est dangereux là-dedans. Après, alors l'Europe, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est quand même dans un certain sens l'impréparation. Enfin, il y a eu un peu du wishful thinking en se disant « Bon, allez, Biden gagnera. » Puis quand c'était plus Biden, pourquoi pas Kamala Harris, etc. Et donc, la préparation, c'est vrai que elle n'est pas vraiment là. Mais c'est aussi difficile de se préparer quand tout le monde n'a pas les mêmes intérêts et n'a pas les mêmes visions. On voit bien déjà que l'Europe, il essaye de la disloquer, justement, dans son côté deal direct avec les uns avec les autres. Qu'est-ce qui va à la Maison-Blanche pour l'intronisation? C'est Madame Meloni. Orban était invité aussi. Mais c'est que partie remise. Hein. Orban, vous savez, il dit toujours que Trump, quand il appelle l'Europe, il a qu'un seul numéro, c'est celui d'Orban. Maintenant, je pense qu'il y a également le numéro de Rome. Mais, et donc, c'est ça qu'il va faire, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Vous citiez Scholz et Macron. Mais regardez Scholz et Macron qui étaient ensemble hier. D'abord, il n'y a jamais eu de couple franco-allemand entre ces deux-là. Mais sur le Mercosur, qui est vraiment ce qui nous a occupés quand même il y a quelques semaines, ce sont des positions radicalement divergentes entre Paris, Scholz et Macron, Scholz-Berlin. Et Paris, on n'est pas d'accord sur le Mercosur. Donc vous imaginez face à Trump. Trump, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire des barrières comme ça indifférenciées sur tous les produits européens. A priori, il va cibler. Donc s'il s'attaque, chacun défendra ses intérêts. L'Allemagne, son industrie automobile, donc vendre des bagnoles, hein, comme l'a dit Trump. Donc ça veut dire peut-être en accepter des américaines. Pourquoi pas des véhicules électriques? Ça, c'est plutôt la Chine. Mais chacun risque d'être tenté de sauver sa peau et de jouer sa propre partition. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se méfier. Alors, dernier aspect, ce qui a été dit sur la défense, oui, ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. En même temps, il n'a pas tort. Hein. Pourquoi est-ce que le contribuable du Nevada, il va payer pour défendre les frontières, non pas de la Finlande qui vient d'adhérer à l'OTAN, mais enfin de pays plus anciens de l'Allemagne, par exemple. C'est vrai que la question se pose. Elle n'est pas illégitime. Je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, le discours des Polonais, il se trouve qu'en plus, il préside l'Europe pendant 6 mois. La Pologne a évolué de manière qui était vraiment le plus attentiste des pays, la Pologne. Tous ceux qui ont vécu sous le joug soviétique, ils savaient bien que c'est pas l'Europe, c'est pas la France avec ses petits bras nucléaires qui allaient les défendre contre l'URSS quand elle existait. C'est bien l'Amérique. Bon, et de voir l'évolution aujourd'hui de la Pologne ces dernières années, c'est vraiment intéressant parce que la Pologne aujourd'hui, c'est vrai qu'elle elle rejoint un peu le discours français. Il faudra que ça passe à autre chose que le discours sur une vraie souveraineté, une vraie défense. Prise en charge par les Européens, non pas européenne, mais prise en charge par les Européens eux-mêmes.
C'est vrai que Bruno Emmanuel Macron, ça fait quand même des années qu'il dit la souveraineté européenne, la défense européenne, ça ne peut pas dépendre que des États-Unis et que de l'OTAN. Et finalement, d'une certaine façon, Trump lui donne raison.
Oui, c'est vrai que Emmanuel Macron n'a pas changé de discours. Il a plutôt prêché dans le désert depuis au cours de ces années-là, abandonné un peu par l'Allemagne sur cette préoccupation. L'évolution de la Pologne est intéressante. C'est aujourd'hui les deux pays qui essaient de donner un peu de la voix, ou en tous les cas faire entendre une sorte de voix européenne. Mais le rêve de la plupart des présidents américains depuis que l'Union européenne se construit, c'est quand même de diviser les Européens. Et Trump est sans doute celui qui va le plus loin dans l'histoire récente des États-Unis, même s'il y en a déjà d'autres avant lui qui ont cherché à toujours mettre un coin entre les différents... Et ça fonctionnait plutôt. Là, Trump, il veut aller plus loin dans la dislocation ou dans l'affaiblissement de l'Europe. Mais au fond, est-ce qu'il ne faut pas aussi voir les choses, j'allais dire, inverser le projecteur et se dire, comme le dit le ministre délégué au commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, c'est aussi un coup de pied aux fesses aux Européens. C'est peut-être aussi le moment où les Européens doivent, j'allais dire, touchent peut-être le fond et que la survie de la construction européenne, elle se joue peut-être dans les années qui viennent. En tous les cas, les quatre années de Trump vont être très rudes pour les Européens, d'autant plus que l'Europe va traverser une période politique difficile. Elle est déjà...
C'est déjà le cas.
Elle est déjà divisée sur le plan politique, hein. Et pas des moindres, l'Italie c'est quand même un grand pays européen et va sans doute être aligné plus que jamais derrière les États-Unis. On ne sait pas comment la situation va évoluer, la situation politique va évoluer en Allemagne. Et tout ça va sans doute se rendre encore un peu plus compliqué, un éventuel, je ne vais pas dire collectif, parce que ça me paraît un peu illusoire, mais... une sorte quand même de môle des Européens face à l'Amérique et à ses barrières douanières qu'on aura, hein. Ça va être la première
ça va être le
premier obstacle au sens propre qui va se dresser devant l'Europe dans son ensemble.
Ce qui est le plus frappant chez Trump aussi, c'est le fait que au fond il a un discours très exactement superposable à celui de Poutine, puisqu'il nous explique que l'intérêt des États-Unis, c'est aussi un intérêt territorial. Et donc, c'est le retour à une conception territoriale de l'Empire, au fond, qui avait disparu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est ça qui est assez terrifiant.
Le Panama, le Canada...
C'est l'impérialisme.
Exactement. Mais là, c'est ça qui est le plus préoccupant, puisqu'il nous cite même le Canada comme l'extension presque naturelle des États-Unis. Comment répliquer à Poutine qui, lui, considère que l'Ukraine, ben, c'est une extension naturelle de la Russie? Donc je pense que c'est ça qui est le plus grave et le plus inquiétant chez Trump. C'est le premier président américain, dans un discours d'investiture, qui ne cite jamais le mot « démocratie », qui ne présente pas les États-Unis comme le rempart des libertés, le rempart des démocraties, qui est le combat de toujours des présidents successifs américains, plus ou moins bien tenus d'ailleurs, promesses plus ou moins bien tenues ou plus ou moins bien tordues, mais néanmoins. Et ça, c'est assez frappant. En plus, lui, ce qui l'intéresse, c'est...
aller sur Mars.
Oui, enfin, c'est surtout les gros bénéfices, les gros sous, l'oligarchie qu'il met en place. Enfin, je veux dire, c'est une Amérique qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était jusqu'à présent, ce qu'elle pouvait représenter jusqu'à présent pour le reste du monde. Donc, on verra combien de temps ça tient.
Rapidement.
Très rapidement, les réactions qu'on a entendues de Emmanuel Macron et de Donald Tusk à propos de comment on va assurer notre autonomie, notamment militaire. Je crois qu'elle est d'une grande naïveté, c'est quand même un peu outrecuidant de ma part de le dire, hein. Mais quand même, je veux dire, ce que Trump veut, c'est qu'on achète des armes américaines qui vont être de nouvelles armes pour une nouvelle façon de faire la guerre. Et les 500 milliards qu'il est en train d'injecter dans l'IA, qui va complètement révolutionner les armes et la manière d'aller sur les champs de bataille, c'est qu'il va falloir s'armer chez eux. Donc ce que je veux dire, c'est que croire qu'on va être indépendant parce qu'on va s'équiper américain avec des conceptions, des fabrications américaines. Oui, pour l'instant, l'industrie...
C'est déjà
le cas. Ce que je veux dire, il ne faut pas raconter qu'on va être indépendant parce qu'on va aller acheter nos armes aux États-Unis. Qui vont être totalement pilotées
par... Catherine, sauf que justement, le but aujourd'hui n'est plus d'acheter les armes. Bien sûr, ça ne sera pas du jour au lendemain. Les 100 milliards allemands, le bouclier, le fameux bouclier antimissile, où ce sont fournitures américaines, israéliennes. Il y a également ceux qui vont acheter du sud-coréen, etc. Bien évidemment. Néanmoins, il y a quand même un marché de la défense qui existe en France, notamment l'industrie française. Il y a quand même des grands projets communs. Le problème, c'est que les projets communs, le SCAF à l'avion de combat du futur avec les Allemands, maintenant les Espagnols, etc., le char du futur, tout ça, c'est des programmes sur 20 à 25 ans. Néanmoins, là où c'est moins naïf, c'est que Macron, mais pas le seul. Les gens répètent que maintenant, il est temps, justement, d'acheter moins américain et que les milliards, parce que nous aussi, on injecte des milliards dans l'industrie, dans l'armement, dans l'équipement, que ces milliards aillent aussi en Europe. Mais c'est vrai que sur Panoply, bah, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vrai que quand vous voulez équiper votre armée tout de suite, bah, qu'est-ce qui reste, les Américains? Juste quand même une petite nuance par rapport à tout ça. Attention, la guerre commerciale, la guerre économique avec les États-Unis, ce n'est pas Trump qui l'a déclenchée, hein, c'est déjà Biden. L'IRA, je veux dire, il faut se souvenir qu'aujourd'hui, la fuite, parce qu'il y a réellement quand même une fuite des capitaux et des cerveaux depuis plusieurs années, et ça, ce sont les conséquences de l'acte anti-inflation de Biden et même auparavant, Trump 1, parce que quand Macron dit Macron est mort, cérébralement mort, il faut passer à autre chose, mais c'est déjà sous Trump 1. Là, il y a une piqûre de rappel énorme parce qu'il nous fait un Barnum inimaginable avec son intronisation et il arrive, il fait tous ses décrets et puis surtout, il est plus fort qu'il y a 4 ans.
Évidemment. Parce
que, voilà, il est plus légitime. Oui. Mais tout ça était quand même largement en germe il y a ces dernières années.
Juste pour redire simplement que c'est déjà le cas. Vous êtes dans l'OTAN, la pression pour que vous vous équipiez américain est énorme. Déjà, ouais. Et donc, c'est déjà le cas de la plupart des pays européens.
Donc, oui, l'indépendance.
Sur l'indépendance, il faut se souvenir des opérations libyennes. L'opération franco-britannique qui a conduit à bombarder la Libye, à se débarrasser de Kadhafi, ainsi de suite. Quand les avions anglais veulent aller bombarder la Libye, le Premier ministre a besoin du feu vert américain. Nicolas Sarkozy n'a eu besoin d'aucun feu vert. Il pouvait le décider. La France était parfaitement indépendante et pouvait le faire sans
je crois que les armes sont en train de changer.
Sans feu vert américain. Donc cette indépendance, elle existe pour le moment.
Alors, on va aller pas très loin de la Libye. On va parler des tensions entre l'Algérie et la France, hein, parce qu'entre Alger et Paris, le torchon brûle, hein, depuis la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Les foyers de tension ne cessent de se multiplier. Emprisonnement de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie, arrestation en France de plusieurs influenceurs pro-régime algérien et interrogé à la sortie du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a tenté d'éteindre l'incendie. On l'écoute.
Personne, là non plus, n'a intérêt à une escalade entre la France et l'Algérie. Mais ce que nous opposons, c'est que l'Algérie, aujourd'hui, fait monter la tension avec des dossiers qui sont importants pour nous. Je pense à Boualem Sansal, par exemple, sur lequel nous n'arrivons pas à aboutir à une solution.
Je vais vous demander votre réaction. Je veux quand même dire que la figure de proue, hein, sur ce dossier en France, c'est évidemment le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec une interview choc, hein, accordée à nos confrères de l'Express. Rien ne donne à l'Algérie le droit d'enfoncer la France. Voilà la couverture. Et par ailleurs, il a annoncé l'arrestation d'un de ses influenceurs. Et il a été remis en place, ce qui est rare, par le parquet de Paris, qui a dénoncé une fuite prématurée après l'un de ses tweets qui avait annoncé l'interpellation de l'influenceur Rafik Mézian. On sent que la tension est à son comble, mais on sent quand même qu'il y a aussi une partie de politique intérieure et en Algérie, mais aussi en France.
Oui, il y a beaucoup de politique s'agissant des relations franco-algériennes depuis toujours. Là, on est sans doute dans un moment d'énormes tensions. Il y a plusieurs dossiers, vous l'avez dit, qui se jouent. Hein. Évidemment, il y a Sahara occidental en toile de fond, la reconnaissance par la France. Il y a Boualem Sansal, et c'est sans doute la préoccupation majeure du moment. Comment faire libérer Boualem Sansal, c'est la préoccupation de l'Élysée et de tous les dirigeants français. Et ça se heurte évidemment à cette affaire aussi de ressortissants algériens que l'Algérie ne veut pas reprendre. Donc du coup, Bruno Retailleau est placé dans une situation compliquée. Ce qu'il faut dire, c'est que l'Élysée et l'Intérieur sont alignés. Grosso modo, les mots qu'emploie parfois Bruno Retailleau peuvent être des mots qui soient... j'allais dire, qui relève un peu du discours un peu martial d'un ministre de l'Intérieur. Mais sur le fond, il n'y a pas de différence sur ce dossier algérien entre Beauvau et l'Élysée. Le président et son ministre de l'Intérieur se sont vus récemment et ils ont plutôt accordé leur violon. En revanche, on voit bien que la question qui se pose, c'est est-ce que Paris va prendre le risque puisqu'à un moment on a évoqué la possibilité d'une riposte, une riposte diplomatique, des sanctions. Est-ce que Paris va les prendre ou pas à un moment? Ça relève du président de la République et pas pour le coup du ministre de l'Intérieur ni du Premier ministre. Et c'est toute la question. Jusqu'où le président peut aller sans mettre en danger Boualem Sansal, qui est en photo derrière vous?
Catherine, c'est vrai que quand même, Emmanuel Macron, quand il est arrivé, il s'est engagé envers l'Algérie. Il y a eu tout ce travail mémoriel qui a été fait. Il y a eu une visite. Bon, le président Tebboune devait venir en France, ça a été retardé. Maintenant, visiblement, ça n'aura plus lieu. Il y a quand même une sorte de déception du côté d'Emmanuel Macron qui a l'impression de ne pas avoir été payé en retour.
Oui, je ne sais pas si ça se joue comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la position de la France en Afrique est en train de décliner gravement et rapidement. C'est-à-dire qu'en en Algérie, qui est quand même un pays avec des liens historiques très profonds, qui sont ceux qui ont été ceux de la colonisation, mais qui se sont continués après. Il y a un quart des Français qui ont des relations avec l'Algérie, soit qu'ils y aient vécu, soit qu'ils soient mariés avec un franco-algérien, soit que, qu'ils soient liés à l'Algérie de manière personnelle et affective. Je pense qu'on ferait bien de faire un peu attention avant de monter la pression comme ça. C'est-à-dire penser qu'on va pouvoir faire des rétorsions, par exemple en réduisant le nombre de visas. Qui sait que ça va affecter ? Ça va affecter les familles qui sont en fait extrêmement liées entre la France et l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire, j'étais en train de perdre le fil, c'est que l'Italie est passée devant nous en termes d'échanges avec l'Algérie. C'est-à-dire qu'en fait, la France est en train de se faire sortir de partout, à force de s'imaginer qu'on peut y aller à promettre de jouer maintenant le rapport de force, comme l'a dit Bruno Retailleau cette semaine sur BFM. C'est-à-dire qu'il a dit on ne se fait plus comprendre, on va y aller à la force. Non mais franchement, est-ce que c'est bien raisonnable de comprendre le monde ainsi? Et je ne crois pas, je vais vous dire le fond de ma pensée, je ne crois pas que Boualem Sansal soit le fond de l'affaire dans ce qui est en train de se passer. Je ne crois pas que ce soit pour Boualem Sansal que la France est en train de jouer ses relations avec l'Algérie. C'est un prétexte, je ne dis pas que c'est un mauvais prétexte. Je pense qu'il faut libérer Boualem Sansal, mais il y en a d'autres, des ressortissants français qui sont dans des prisons à l'étranger, et on ne fait pas ça pour les autres. Et là, en l'occurrence, ce que je crois, c'est que Bruno Retailleau a trouvé un prétexte pour développer son discours, qui est un discours de guerre de civilisation contre le monde musulman en général et algérien en particulier.
Moi, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il faut quand même... Non, je pense qu'il faut quand même...
Vous êtes plus modéré que moi.
Non, il faut rester près du déroulement des choses. On ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron d'avoir tout fait ou tout tenté pour essayer d'un rapprochement durable avec l'Algérie.
Je lui reproche
simplement, pas. Simplement, il est arrivé à Emmanuel Macron ce qui est arrivé à tous ses prédécesseurs quand ils ont essayé la même chose. C'est arrivé à François Mitterrand, c'est arrivé à Jacques Chirac, c'est arrivé à chaque fois qu'il y a un effort côté français pour le coup de bâton en retour était terrible. Moi, je me souviens de François Mitterrand, premier voyage en Algérie, retour à Paris, enthousiasme de la délégation française. C'était vraiment, tout le monde communiait dans une euphorie. Et il avait amené Roger Hanin avec lui, et ainsi de suite. Enfin, et puis, très peu de temps après, qu'est-ce qu'on apprend? Que l'Algérie soumet à la France des tarifs prohibitifs pour son achat de gaz algérien. Bon. Même chose avec d'autres présidents. Jacques Chirac, accueilli en héros à Alger, et au sortir de cela, des nouvelles décisions algériennes ont réduit l'enseignement du français. On réduit l'enseignement du français à l'université, puis après on le réduit dans les écoles, et ainsi de suite. À chaque fois, il y a des mesures en retour qui montrent que le pouvoir algérien a ce levier dans l'opinion algérienne et se sert en permanence de la France ou des intérêts français comme d'un punching ball. Donc il ne faut pas non plus être naïf et penser que les Algériens sont là les premiers. On est obligé de tenir compte de cela. Boualem Sansal, il n'y a pas de discussion à avoir. Tout doit être mobilisé pour faire pression sur l'Algérie. Discussion. Et par ailleurs, que de vouloir prétendre interdire à la France une relation normale avec le Maroc, c'est aussi, c'est vraiment une obsession algérienne. La France n'a pas à tenir compte de cette, me semble-t-il, de cette obsession.
Henri, mais donc, le fait est que les relations sont tellement mauvaises entre...
On a tenu compte et d'un seul coup, elle a changé. Parce que pour la déception dont vous parlez, ça je partage totalement, c'est vrai que jamais aucun président, mais tout simplement du fait générationnel, c'est le premier président qui n'a aucun rapport avec la guerre d'Algérie, qui n'a aucun rapport avec cette histoire-là, et qui donc, en quelque sorte, est un peu...
Il avait parlé de crimes contre l'humanité. pendant la campagne 2017.
Quand même, elle lui avait un peu coûté dans sa campagne. C'est le moment où Bayrou est arrivé. Et là, parce que là, il avait joué quand même assez gros en disant ça. Parce que, comme vous le disiez, l'imbrication entre les deux populations est telle que quand vous dites ça en pleine campagne, c'était sa première campagne, c'était, mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. De même que quand vous citez avec raison Jean-Marie Colombani le prix du gaz algérien, oui. Bah oui, mais on a accepté de le payer à ce prix-là pendant des décennies parce qu'en quelque sorte, c'est le prix de la colonisation qu'on payait. Ben voilà, oui. Et la France l'a fait. Maintenant, là où je suis en effet moi aussi nuancé par rapport à votre analyse, Catherine, c'est que très sincèrement, là pour le coup, il ne faut pas exonérer l'Algérie.
Mais je l'exonère pas du tout,
vraiment,
je parle de la France.
Cette querelle-là, et c'est vrai que l'attention, la querelle n'a jamais été aussi forte depuis l'indépendance. Hein. Clairement, on est au bord de la rupture diplomatique. Tous les canaux habituels sont rompus, y compris. Alors là, on vient d'apprendre que le patron de la DGSE a fait un aller-retour, tellement c'était problématique parce que l'Algérie est un gros partenaire en matière de sécurité, non seulement pour le Sahel, mais regardez la Syrie actuellement.
Mais je ne suis pas en train de dire que le gouvernement algérien est clean. Je dis juste quel est notre comportement et comment on pense à traiter le sujet. Voilà, c'est ça que je conteste.
Mais ça, c'est important parce que, par exemple, la Syrie, elle connaît mieux que personne les djihadistes qui sont en Syrie et parmi eux, il y a beaucoup de franco-algériens. Donc, bon, sur plein de plans, c'est vraiment une coopération qui est utile. Et là, le fait que vraiment tous les canaux sont en train de se couper, ce qu'on n'a jamais vu depuis des années, c'est grave et c'est pour ça qu'en effet, il faut plutôt calmer le jeu. Ce que, malgré tout, Retailleau, dans la même interview, il dit qu'il faudrait que ce serait pas mal que ça redescende.
Que la page soit tournée.
Exactement. Ouais. Il y a la petite claque qu'il a prise sur l'influenceur. Ouais. Moi, je ne suis pas si sûr qu'il soit totalement aligné. Ça dépend des moments parce que Macron, il a une diplomatie qui est un peu déroutante. Hein. Donc, il y a des moments où il peut être aligné, en effet, avec Retailleau. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres moments où il ne l'est pas parce que, regardez, cette crise, elle dure depuis juillet. En réalité, Macron, il avertit Tebboune, donc le président algérien, il l'avertit de la reconnaissance de la marocanité du Sahara dès le mois de juin. Il se voit, c'est en marge du G7 en Italie, il l'avertit et la reconnaissance ne se fait que fin juillet. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on a mal jugé les conséquences. Franchement, pour le coup, nos diplomates et à l'Élysée aussi, on sait ce que c'est que l'Algérie. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une mésestimation totale. Simplement, c'est un risque qui a été pris. C'est vrai que la décision aussitôt a été prise à l'Algérie de punir la France. Mais clairement, ça s'est passé dans tous les domaines. Alors, et Retailleau, évidemment, il mène. C'est vrai que Retailleau, quand il agite les visas, quand il agite tout ça, c'est évidemment, il joue aussi sa propre carte en politique intérieure. Mais pas que, hein, bien sûr, c'est aussi la France. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que malgré toutes les baffes que subit la France en retour, qui a quand même fait des gestes mais considérables en matière de mémoire, qui n'a jamais été payé de retour. Même on s'est fait renvoyer sur un hommage que la France voulait rendre, et on s'est vraiment renvoyé dans nos cordes par l'Algérie. Malgré ça, le nombre de visas attribué par la France aux Algériens, c'est pas qu'il a diminué, c'est qu'il a augmenté entre 2023 et 2024. Mmh. Donc, parce que la France a fait le dos rond. Peut-être que maintenant, c'est en train de changer avec Retailleau, peut-être, mais pour l'instant, on a fait le dos rond en essayant de calmer le jeu. Parce que malgré tout, c'est quand même un partenariat, c'est quand même une politique extérieure que Paris essaie de préserver.
Est-ce que c'est l'enjeu, c'est l'offense ? Les termes de Retailleau sont des termes quand même qui placent le débat sur un terrain qui n'est pas bon.
Mais
l'Algérie ne peut pas offenser la France.
Mais même Macron, quand il a parlé de déshonneur,
Ce sont des termes qui ne sont pas corrects.
Et surtout avec l'Algérie, qui est d'une susceptibilité incroyable. Mais c'est vrai aussi, mais ça vous l'avez rappelé, attendez, Tebboune, il a été mal réélu. Quand vous êtes mal réélu, que c'est un régime d'octogénaire, que la population ne supporte plus, parce que c'est quand même ça aussi la réalité. L'Irak a été étouffé par le système répressif, etc. Mais la population ne les supporte pas. Donc, taper sur Paris, il n'y a rien de mieux pour essayer de
resserrer les rangs et sauver les meubles à l'intérieur.
On le permet.
Très rapidement. On va vraiment très, très rapidement. Le budget, quand même, on va revenir un peu en France.
La France n'a pas de budget.
Alors, le Sénat a voté ce jeudi, adopté en première lecture le projet de budget avec des nouvelles coupes dans les dépenses. Ensuite, il doit y avoir une commission mixte paritaire pour essayer de trouver un compromis avant la semaine prochaine. Mais il y a beaucoup de nouvelles idées qui sont promues. C'est un peu le concours Lépine pour essayer de trouver des nouvelles ressources, notamment la ministre du Travail qui a proposé de taxer les retraités les plus aisés. Réponse cinglante du ministre de l'Économie ce jeudi et une des réactions très rapides de votre part.
Donc c'est sur les grandes entreprises et les hauts revenus que nous allons nous appuyer. On ne souhaite pas augmenter, encore une fois, les impôts des ménages, que ce soit les retraités ou les salariés.
Mise au point.
Oui, c'est une mise au point très nette du ministre de l'économie, Monsieur Lombard. Madame Panossian l'a dit dans son interview, elle parlait en son nom propre hein, lorsqu'elle a, elle a évoqué cette, cette taxation des retraités, enfin cette mise à contribution des retraités pour financer les retraites, hein, dont on sait qu'il y a à peu près seulement... Aujourd'hui, les cotisations, ça couvre 2/3 à peu près hein, de, des dépenses. Ça ne se fera pas là. C'est-à-dire, François Bayrou ne peut pas ajouter ce dossier, même s'il a dit qu'il n'y avait pas de tabou sur la question des retraites. On sait bien que ça ne se fera pas, en tous les cas, sur ce budget, pour des raisons aussi techniques. Vous ne pouvez pas ajouter des recettes d'un parti d'un budget qui a déjà été, qui est déjà au Sénat. Vous pouvez jouer que sur les dépenses. Il y a de la technique parlementaire. Ce qui compte, c'est moins ce qui va se passer, c'est moins ce qui s'est passé au Sénat que ce qui va se passer après la commission mixte paritaire, pour faire simple pour nos téléspectateurs. C'est en gros, voilà, un moment ou un autre, François Bayrou, il va être à nouveau, il va passer sous le laminoir du 49-3, et donc à nouveau, nous aurons ce débat, savoir si les socialistes, cette fois-ci, puisque c'est eux qui seront au centre du jeu, laisseront passer le budget en ne censurant pas le gouvernement. François Hollande, qui s'est avancé dans la tribune dimanche, a dit qu'il ne censurerait pas. On a vu que ça avait créé pas mal de grabuges à gauche. Ça va être le débat, voilà, des 10 jours qui viennent.
Toujours, très rapidement, on a 2 minutes.
Il y a toujours quelques frondeurs au PS. On voit ressurgir tout d'un coup. Alors que vraisemblablement, le PS sera dans l'obligation, je pense, de ne pas censurer.
Moi, je ne vois pas comment il peut ne pas censurer. Il y aura un frondeur qui s'appellera François Hollande cette fois-ci.
Vous rêvez de voir les socialistes rejoindre les troupes de Jean-Luc Mélenchon.
Mais non, vous ne pouvez pas me faire cette accusation-là.
Mais vous savez, Catherine, déjà,
elle n'a aucun sens.
Je me souviens que vous disiez que la dernière fois, ils censureraient, non pas censurer.
Non, je ne pense pas avoir dit ça.
Ça ne passerait pas.
Pas du tout. Alors là, justement, je pensais que la dernière fois, il n'y avait aucun risque que Bayrou tombe, que donc c'était,
et là, il y a un risque.
C'était vote politique libre, parce qu'il n'y avait pas de risque.
Mais le PS ne se rallierait pas à cette solution-là.
Ce que je pense, c'est qu'ils ont censuré le projet Barnier, que ce projet-là est encore plus déroutant, je vais dire, pour un électeur de gauche et pour des gens qui sont en faveur du service public et de la justice fiscale. Donc je ne vois pas comment ils vont pouvoir le faire. Voilà, ça me paraît compliqué.
Henri, en deux mots, Bayrou va survivre.
Enfin, moi, je déteste faire de la prédiction, surtout quand ça concerne l'avenir. Après, en bonne logique, on peut penser que dans la mesure où vous n'avez pas voté la censure pour la déclaration de politique générale, il n'y a pas vraiment de raison de la changer sur le budget. Par ailleurs, il ne faut pas exclure quand même qu'il y a un trophée offert au PS. Hein. Ça peut quand même venir. Il reste le temps de la discussion.
On verra tout ça, mais c'est l'heure de la politique sur les réseaux.
Bonjour.
Bonjour Véronique Ressoul, directrice de Backbone Consulting, pardon. Alors, on va revenir en arrière sur Donald Trump un petit peu. Hein. Alors, ce lundi, tout d'abord, on va parler des réseaux.
Oui.
Évidemment. Une action a été lancée pour quitter X, le réseau social d'Elon Musk, et ceci le jour même de l'investiture de Donald Trump.
C'était un symbole important. Une application qui a été lancée par c'est une initiative du CNRS qui s'appelle Hello Kit X, avec un petit jeu de mots qui ne vous a pas échappé. Et donc l'idée, c'est de simplifier les choses et d'aider les internautes qui sont sur X à effectuer cette migration dans une logique presque de colonisation, puisque c'est la garantie, quelque part, que vos followers, enfin vos abonnés, vont vous suivre et vont aller sur les réseaux sociaux que l'on vous propose. Donc c'est une opération plutôt bien faite. Alors, quels sont les réseaux sociaux vers lesquels ils veulent vous emmener? Le premier, c'est Blue Sky, et le deuxième, c'est Mastodon. La réalité, c'est que Blue Sky, c'est un réseau social qui ressemble beaucoup, beaucoup à Twitter. C'est celui qui a le plus de succès, d'ailleurs. C'est là où certains d'entre vous sont, d'ailleurs. Et Blue Sky, en fait, ils sont arrivés à 26 millions de followers depuis l'opération. Alors, pas que à cause de Hello Kitty X, mais globalement, c'est celui qui remporte le plus de succès. Pour une raison simple, c'est qu'il avait été créé par le fondateur de Twitter, monsieur d'Orsay, et depuis, il a été repris par un collectif, c'est ce qu'on appelle une Benefit Corporation. Il est sur plusieurs serveurs, donc il garantit un certain nombre d'avantages, mais surtout, les fonctionnalités sont très très proches de X. Donc globalement, une fois que les gens y sont, ils sont un peu moins perdus. Mastodon, c'est une autre affaire, ils sont à peine à 1 million, c'est plus compliqué, c'est une société allemande, voilà. Et globalement, les gens de Hello Kit X annoncent qu'ils ont 17 000 utilisateurs enregistrés grâce à cette application, 23 millions de connexions possibles. La réalité, c'est que ça veut dire que ce n'est pas un succès massif, mais c'est vraiment un symbole, c'est important, c'est intéressant. Il y a une promesse qui dit que, dans le fond, il y a une vie après ou pendant X, qu'on continue en laissant ses comptes pour ne pas se les faire vampiriser. Et donc, les politiques relaient aussi l'information et se félicitent et encouragent les uns et les autres. Donc, comme ici, cette députée européenne qui dit, ben voilà, bravo à l'équipe Hello Kit X. Plus 3 millions, en fait, 13 millions. Entre-temps, il y en a eu un petit peu plus. Et même si ce n'est pas fondamentalement un succès, c'est un symbole suffisamment fort pour que ce soit relayé partout. Et il y a eu pas mal d'articles aussi sur cette opération française dans le reste de l'Europe et aux États-Unis.
Alors justement, revenons aux États-Unis, à cette fameuse journée du 20 janvier, journée d'investiture. Évidemment, il y a eu beaucoup de reprises sur le net et il y a eu surtout énormément de débats autour d'une polémique.
D'une polémique, 5 millions de messages simplement sur cette polémique, plusieurs millions de vues des différentes vidéos. Eh bien, c'est le fameux geste de monsieur Musk pendant cette investiture. Alors certains ont essayé d'expliquer, voyez le type de vidéos qui ont été passées un peu partout. Alors l'explication, elle aurait été que comme il est Asperger et qu'il a un problème de relation avec les gestes et son corps et dans l'espace, bref, il y a eu plusieurs explications de ce type-là. Une autre vidéo qui était pas mal qui circulait pour dire mais non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, comment vous dire, il passe ses vidéos en disant « Mais oui, bien sûr, c'est un autiste, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. »
Là, ce n'est pas très autiste.
Ce n'est pas très autiste, c'est moins qu'on puisse dire. Et globalement, M. Musk a fini par dire « Mais non, en fait, ce n'est pas un sujet d'autisme, c'est un geste très courant. » Voilà l'explication que lui a publiée. Alors, cette explication montre qu'à peu près tous les politiques américains ont fait ce geste à un moment donné. Et donc lui, évidemment, sans parler de complot, il dit « Voilà, pourquoi aucun média n'a jamais condamné ces gestes. Le sujet, c'est que vous voyez, il y a un petit chiffre en bas, c'est 130 millions de vues. C'est la puissance de Musk sur X, évidemment. Et donc, globalement, cette théorie de dire qu'en fait, on n'a pas compris son geste et que tout le monde fait ce geste très couramment, a l'air de plutôt bien prendre. Alors, il a même pris auprès de certains politiques français. Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes puissances de vues. Mais Madame Royal a finalement dit, oui, c'est vrai, voilà. Voilà, stoppons les polémiques absurdes contre M. Musk au moment où les otages israéliens sont enfin libérés et le fragile cessez-le-feu en place. Donc globalement, elle essaye d'expliquer aussi ce geste de cette façon-là. Et c'est bien ça qui a été retenu parce que, en gros, si vous regardez, voilà, peu ou prou le genre de message qui était partagé un peu partout. Voilà, donc Elon Musk boit de l'eau, Hitler buvait de l'eau, donc est-ce qu'on peut dire que c'est un geste compromettant? Et donc globalement, on va dire que les politiques n'ont pas forcément pris le bon angle pour condamner ce sujet. En tout cas, ça n'a pas pris.
C'est
pas que ça nous réjouit, mais ça n'a pas pris.
Il a d'ailleurs reçu le soutien du Premier ministre israélien ce jeudi.
Exactement.
Pour terminer, quelles sont les images qui ont été les plus retenues entre le président sortant et le président entrant?
Alors, on a plutôt plus parlé du président entrant, mais il y a une vidéo qui a fait un malheur sur TikTok, encore plus que l'histoire Musk, et bien c'est celle-ci. Elle a fasciné le monde entier. Je ne sais pas si vous l'aviez vue, mais je peux vous dire que vous allez sur TikTok, vous l'avez forcément. Voilà, il danse, comme il a su faire pendant toute sa campagne, avec son épée et il coupe le gâteau. Voilà. Donc, et cette image, elle passe en boucle un peu partout. Elle a eu un effet qui était, voilà, les gens ont beaucoup ri sur l'image, mais en même temps, elle a eu un effet, c'est que les gens la trouvaient assez effrayante. Elle faisait peur en soi, en se disant, mais voilà, quelle curieuse scène, même aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est la vidéo que les gens ont retenue sur les réseaux de l'investiture. Après, pour M. Biden, c'est un autre sujet. on ne va pas la regarder toute la longueur, mais elle passe vraiment beaucoup sur TikTok. Monsieur Biden, c'était plus calme, un peu plus positif. C'est le dernier selfie. Voilà, one more selfie for the road. Voilà, on vous aime, l'Amérique, tout ça. Donc ça, c'était le deuxième sujet. Mais pour vous donner une petite idée, la vidéo que je vous ai montrée, elle a été vue plusieurs millions de fois. Ce selfie, il a été vu 34,6 millions de fois. Donc on peut dire que M. Trump a un peu plus cartonné. Et puis, il a été sur tous les réseaux avec cette magnifique vidéo. Mais il y a un dernier sujet qui ne vous a pas échappé, en tout cas, qui a interpellé les internautes. Le chapeau. Le chapeau de Madame Melania. Alors, le New Yorker a fait une vidéo, une série de dessins. Alors, je ne vous les ai pas tous passés parce que je me doutais que nous n'aurions pas le temps. Mais pour vous donner une idée, alors les gens se sont dit c'est parce qu'elle avait raté une petite séance de Botox. D'autres qui ont dit, en fait, c'était pour faire des yeux méchants aux uns et aux autres. D'autres qui ont expliqué qu'en fait, elle dormait. Il y en a d'autres qui ont expliqué qu'elle cachait une réaction dermique, une crème. D'autres qui expliquaient qu'en fait, elle avait raté un tuto sur sa frange. Enfin bref, je vous invite à aller voir sur le New Yorker. C'est très rigolo. Mais globalement, ça a beaucoup fait parler. Et d'aucuns ont dit qu'elle avait fait exprès parce qu'on ne voulait pas, elle ne voulait pas être là. Et donc, c'est une façon de ne pas être là en ne donnant pas son regard et que ça lui a permis d'éviter d'embrasser son mari ce soir-là puisqu'il n'a pas pu l'atteindre à cause de son chapeau. Mmh. Voilà. On est sur une analyse de fond.
Mais c'était déjà le même genre d'analyse qu'il y avait pendant le premier mandat. Voilà. Merci beaucoup à tous et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Politique sur France 24.